Coucou, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique des jeux de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule, aujourd'hui avec Antoine Fouin.
Oui,
sommet avec Géraldine. Géraldine, incroyable pour ce trip to fly incroyable. Tu es là.
Je suis là.
Tu es là maintenant.
Je suis arrivée.
Tu es dans la table. Tu es in the game.
Et je la remercie.
Pourquoi ?
Qu'est-ce que tu as, Fly ? Merci d'être là.
Qu'est-ce que tu as ?
Ils font n'importe quoi.
Mais oui,
personnage correct à la table.
Mais bien sûr. Nous sommes des personnages incorrects, c'est bien ça ?
Non, des personnages. Disons que sur toutes les solutions que je peux vous proposer, vous choisissez systématiquement la pire, mais ça roule.
Peut-être.
Arrête de proposer, Flavie.
Enfin, c'est pas vraiment que je propose.
Sinon, on la prendra pas. On la choisira jamais, cette solution.
Non, mais c'est bien, parce que moi, à chaque fois, mais en même temps, tu me diras, Géraldine a commencé à rejoindre la table, je l'ai bien senti, parce qu'elle avait fait un sans-faute pendant son scénar, et là, elle m'a fait un truc de ouf, où j'étais là, oh, bah, j'avais prévu que ça arriverait plus tard, mais pourquoi pas.
Alors, donc, il faut rappeler, donc, du coup, on s'était arrêté pour le débrief des podcasts au moment... On sortait avec Robotique on se dirigeait vers la région de Léangar.
Oui.
Pour faire simple, Antoine. Donc on était
Robotique,
en train de sortir.
L'autotomate.
L'autotomate, tout à fait. Et donc du coup nous nous dirigeons vers la région de Léangar. Et là tu avais emmené l'épée du personnage de Géraldine qu'on va présenter peu de temps après. Et nous avons réussi à prendre un vaisseau spatial. Mais avant de partir, nous avons fait, tu as fait une petite exploration d'une salle, ma foi, très intéressante, dans laquelle se trouvaient quelques oiseaux.
J'ai libéré les oiseaux de la cage.
Raconte-nous ça, Antoine. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Libérer la cage aux oiseaux.
Qu'est-ce que c'était, cet endroit-là ?
Bah, je sais pas, il y avait des oiseaux gigantesques, un peu figés, dans des postures étranges, et puis en approchant...
Il y en a un qui s'appelle Marauté. Et tu décides de t'approcher.
Ouais.
Et quand tu le touches, il se réveille.
Ouais.
Et là.
Et là, je touche.
Tous les autres oiseaux.
Bah, je comprends que je peux donner la vie, en fait.
Il court et il réveille tous les oiseaux géants.
Bah, écoute, oh. Pourquoi pas ?
Non, mais parce que quand il se réveille, il a l'air d'apprécier le réveil. D'être libre, il s'ébouriffe, il nettoie ses plumes
content.
De métal.
Le MJ aussi d'ailleurs. Moi, tout ce que j'ai prévu en fait, ça va arriver très vite au final.
Non, mais vous allez voir ce que ça va provoquer. Ouais, ce qui m'amuse, c'est la suite. Donc du coup, tu réveilles tout le monde. Tous les oiseaux. On prend des épées, un vaisseau spatial en gros, hein, on résume très gros traits. On décolle de l'île qu'on était censé explorer.
Je préfère quand même préciser le vaisseau spatial, je ne sais pas si on en avait parlé à la fin du dernier scénar. En fait, vous ne savez pas ce que c'est quand vous entrez, mais quand vous entrez, il se passe quelque chose dans votre mémoire, comme une sorte de mémoire génétique à la Snake. Et en fait, toi, tu sais, Alvéric, comment...
On upload le manuel du vaisseau en une seconde.
Excellent, tout à fait. Effectivement, à ce moment-là, en fait, il y a quelque chose qui se passe dans nos corps qui fait qu'on sait piloter, en fait, c'est ça, et qu'on comprend l'usage. Et bon, donc, je rappelle qu'on était parti du Haven en promettant à l'intégralité des ambassadeurs des 9 tribus que nous irions sur ce morceau de terre.
Désolé,
et que toutes ces choses que nous allions y trouver seraient un commun de l'humanité d'Yggdrasil. Que nous n'allions rien ramasser, évidemment, je veux dire, on savait.
Et encore moins toucher.
Rien toucher, rien ramasser, et tout ça appartiendra à tout le monde. Et nous arrivons donc, nous revenons de l'île, au Haven, avec trois
épées. Je tiens à dire ce que dit Géraldine vient de me dire, c'est comme Abou, quoi.
Ah oui, c'est exactement ça, c'est la caverne aux merveilles, et nous, on ramène tout. On nous a dit de toucher à rien et on ramène tout. On en arrive. Alors attends, donc faut décrire la scène. On arrive vers le Haven avec un vaisseau spatial, une myriade d'oiseaux volant comme des goélands autour de nous.
Géants.
Trois épées magiques qu'on compte bien garder pour nous, hein, parce que c'est un commun. Rappelons, c'est un commun d'Yggdrasil, donc on le garde.
Et un golem de métal.
Et un robot. Voilà, exactement. Donc on arrive.
Une partie du visage synthétique a fondu. Avec les années.
Voilà. Donc pas du tout horrible, enfin pas du tout choquant pour les gens.
Et qui s'exprime très mal.
Et qui s'exprime très mal.
Non, c'est vous qui le comprenez
pas. Ou très bien, on ne comprend pas. Donc en gros, on arrive comme ça au Haven, donc le lieu emblématique de Trip to Fly, le lieu où sont réunies toutes les élites de Trip to Fly, notamment l'élite religieuse dirigée par ce grand sage qui s'appelle Bjorn et qui dirige un peu Yggdrasil, hein, faut le dire, ou en tout cas le conseil des 9 tribus d'Yggdrasil. Et donc on fout la merde, hein, soyons clairs, on arrive.
Ah, moi, il y a des moments que je kiffe en tant que MJ. Vraiment, c'est quand... Parce que moi, encore une fois, j'avais pas prévu que vous kifferiez robotique et j'avais pas du coup prévu qu'il ferait partie de la team. Ouais. Mais en fait, j'en suis très heureuse parce que, en fait, quand vous lui demandez quelque chose, je surkiffe. Parce qu'en fait, je vous explique avec les mots d'aujourd'hui et avec des trucs genre... Oui, je notais un
c'est un comic relief et en même temps une soupape, ouais, pour toi, quoi.
Les rétrofusées magnétiques ont été réactivées et... J'adore vos têtes. Les rétrofusées.
On sent quand même que le jeu de rôle Ulysse 31 est passé par là et que la case Technonawak a été pas mal cochée.
J'ai toujours kiffé le Technonawak.
On sent ça. Hein. Bon. Donc, d'ailleurs, c'est elle qui a inventé cette case, hein, faut le savoir, hein, dans le jeu Ulysse 31. Donc, on arrive au Haven. Évidemment, on n'est pas bien accueilli, Antoine.
On arrive avec un vaisseau à réacteur qui se pose à la verticale sur la place publique, c'est ça.
Ouais. Et devant
à
Bjorn.
À la place, je rappelle, à l'endroit où normalement on est censé réunir le conseil. Donc là, vous vous déposez là. Bon. Alors... Parce que... Et là, je me rappelle très bien que au moment où je vous demande où est-ce que vous voulez vous poser, vous dites la place là où on s'était réunis, c'est plat, hein, c'est ça, ouais. On se met là.
Genre... C'est pas moi ça, hein. Je crois que moi je voulais pas. C'est qui a décidé?
Non mais Antoine, non. Alors,
on va
arrêter la place. Mais c'est pas moi.
C'est pas moi, non, c'est pas moi.
Tu l'as regardé, mais en fait vous êtes tous les deux posé la question et tu l'as regardé et tu fais « Oh, ça va être horrible, on va là. »
Bon, je dis pour mémoire, hein, nous avons eu un débat avant de poser le vaisseau à cet endroit-là, au Haven, s'il fallait revenir au Haven ou pas, ou s'il fallait se poser ailleurs et commencer à snaker les 9 tribus, voilà. Bon, tu as choisi, Antoine, puisque c'est toi le chef. Il faut le dire, c'est toi le chef.
Donc, non, mais ça t'arrange bien. Ouais. Tu te défausses.
Non.
Bon, ok.
D'accord.
Attends, on n'était pas seul.
Vous étiez avec Dreki et Aldar, Dreki. Elle allait sur l'aigle, Marauté.
Voilà. Donc on s'est dit, on va aller au Haven parce qu'il y a déjà Aldar qui est sur un oiseau, sûrement au Haven. Elle avait pris de l'avance. On va pas la laisser se faire.
Oui, se ferme en maraouté, j'ai envie de dire.
Voilà, on peut pas outer.
En même temps, comme elle arrive avec des oiseaux géants, mais qu'ils ressemblent à des oiseaux géants, évidemment, ils pensent que c'est un cadeau déco parce que ça ressemble encore à quelque chose d'un peu naturel.
Ouais.
Puis vous arrivez avec le vaisseau.
Et là, Bjorn, là j'ai une scène à raconter, moi. Je vais avoir une petite histoire à raconter.
Oui, il a un grief.
Donc il arrive. Donc Bjorn est devant, et puis là il y a un dialogue qui va tourner court. Enfin très rapidement, Bjorn va nous dire mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez ramené l'horreur et tout. Il nous laisse même pas parler.
Soldats hein, autour de lui. Enfin des gardes.
Il y a deux soldats représentés par 2 D6.
Mais je précise bien que tout le monde a des armes et que pour l'instant,
On arrive au grief. On y est.
Et je précise bien qu'il y a des mondes tout autour de vous.
Oui.
Avec des armes.
Mais moi, en fait, quand tu poses les 2 D6, je me dis, c'est le monde tout autour et il y a Bjorn qui est représenté par un D20. Attends. Bjorn est représenté par un D20, il y a 2 D6. Je regarde la table, un D20, 2 D6. Je me dis, on a nos épées. C'est jouable. Donc moi, j'y vais, je dégaine l'épée et je dis, j'attaque Bjorn pour lui faire entendre raison, toi, tu vois.
C'est
là, Flavie...
très belle façon de parler.
C'est ma façon de parler, j'ai toujours été comme ça.
Et du coup, tous moi, les gens qui avaient des épées, t'es en train d'attaquer le chef du Haven au Haven.
Voilà.
Je commence à poser... Voilà. Plein de dés.
Non, ce que tu dis, c'est bah du coup, lui il dégaine son épée. Et
alors
tu
pourquoi
mets
tu
un
l'attaques
la table.
T'as pas dit pourquoi tu l'attaques.
Bah parce qu'il me saoule. Il raconte que des bêtises sur
non,
le fait qu'il veut pas. Il nous menace. Il dit qu'il faut pas que les armes qu'on a entre nous, c'est pas un cadeau d'écho. On apprendra plus tard que c'est non seulement un cadeau d'écho, mais qu'il y a une arme qui lui appartient en propre. On verra ça plus tard. Bref, il a tort sur toute la ligne. Il veut surtout pas que les choses changent. Il veut pas apprendre de robotique les secrets dont il dispose. Il veut pas savoir d'où viennent les oiseaux mécaniques. Il ne veut rien savoir. Le type veut rester dans le monde tel qu'il l'a toujours connu, ce monde qu'il dirige, et ça l'arrange. Et nous, on est là, bah oui, effectivement, on vient de rebattre les cartes, on vient de chambouler son monde, et donc il est pas content.
Et Dreki est bon. Avec vous, mais il y a aussi l'intrigue politique derrière, c'est que Dreki oui. veut renverser le Haven, et, voilà. Et Bjorn le sait.
Voilà, donc il y a aussi ça. Bon, moi, ça, je m'en fous. Tout ce que je vois, c'est un vieux con qui a pas envie de changer. Bon, je vois qu'il est représenté par un des 20 avec 2d6. Je me dis c'est jouable. Bon, et là bon, au moment où je sors mon épée, Flavie fait bah oui, mais lui aussi il sort son épée, puis elle met un D10 sur la table, puis lui aussi un D4, puis lui aussi un D6. Tu prends tous les dés qui te tombent sous la main, tu dis bah tiens. Et là la feuille elle se couvre de dés, ce qui n'est absolument pas interdit par le système de jeu.
Non,
soyons très clairs, hein, c'est pas interdit. Mais moi, là, à ce moment-là, je me dis, putain, mais c'est pas possible, quoi. Je vais me faire déboîter. Et je me suis fait déboîter.
Alors, j'avais deux possibilités. Je me suis vraiment posé la question de comment j'allais le jouer. Je me suis demandé si j'allais pas faire le système de couleurs des dés, ou tu sais, de mettre plein de dés blancs qui regardent. Et juste deux dés noirs qui montraient.
Ouais.
Et du coup, transformer, au moment où tu dégaines ton épée, transformer les dés blancs en dés noirs.
Ouais, pas bête.
Et j'avais la solution, mais en fait.
Non, mais c'était beaucoup mieux.
Je me suis dit que c'était beaucoup plus fun, c'est parce qu'il y, y a pas mal de séries comme ça, ou même des trucs de Spielberg, où tu sors ton épée et l'autre, il sort un flingue, tu vois. Et bon, bah, je vais rentrer dans tes
épées. Là, c'est vraiment, t'as toutes les épées qui se dégainent d'un coup.
C'était très impressionnant.
Et la pointe sur la gorge, vous voyez, centaines d'épées autour de toi.
Ouais, tu sais, le truc, là, dis une opinion qui te refait te retrouver dans cette situation, là. Et tu vois le héros de réponse qui a, qui a toutes les épées.
Ouais.
C'est exactement ça. Et en fait, ce qui était rigolo dans la scène, alors bon, sur le coup, je me suis vraiment senti trahi. Hein. J'ai une fraction de seconde, je me dis, attends, non, c'est de la gruche, quoi. C'était un des 20, et comme il y avait des gardes, en plus, moi, je pensais que c'était eux qui représentaient en fait la garde de Bjorn. Je me disais, ah putain, merde et tout, et machin. Sur le coup, je me sens trahi, et après, je dis, non, mais la scène, elle est trop belle. Elle est géniale. Mais sur le coup, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Mais c'est encore une fois rien dans le système de Trip to Sky.
Mais moi, dans mon Maelstrom, j'ai jamais pensé que c'était les seuls gardes, quoi. Enfin, c'était logique, on est au Haven, voilà.
Puis j'avais toujours décrit plein de gardes partout.
Voilà, voilà.
Ouais. Non,
je pense que...
Puis on était méga en tort, honnêtement. On a rompu
surtout
toutes
toi.
Les promesses.
Bon. Non, bah, mais tu lui sautes à la gorge.
Tu rigoles ou quoi?
C'est la pire trahison.
Oui, d'accord, mais...
C'est non seulement t'es
commencé.
En tort, mais quand il est...
Attends, il a
quand
commencé
il dit, c'est mal, tu
oui, mais j'aurais pu réparer, alors que toi, tu sautes à la gorge, c'est trop tard,
bah
ça
oui,
y est, fini.
Je suis désolé, mais parce que je pensais que c'était un des 20,
tu vois,
je pensais qu'on allait...
Mais c'est ton perso, tu joues un perso un peu brut
en tant que Chromaric, j'avoue, je me suis un peu senti trahi. Mais après, je me suis dit, ah, le personnage,
ouais,
il est comme
la
ça,
scène
voilà,
est classe.
La scène était bien.
Et puis, je préparais l'arrivée de Géraldine aussi, l'arrivée de Yona.
Mais la violence, quand même, de se retrouver avec une multiplication de dés comme ça, c'est la première fois, parce que moi, c'est la première fois que je joue à Trip to Sky. Je l'ai fait subir, j'imagine, à des tables, ce genre de truc.
C'est vrai que ça fait un peu cinématique, mur invisible en mode.
Du coup, on a perdu. Non, mais du coup, c'est très cool parce qu'on a perdu. On s'est retrouvés tous à 1.
Alors,
point
sachant que si vous aviez décidé de ne pas atterrir au Haven, vous auriez pas eu cette scène-là, en fait, si vous aviez tout caché.
Ouais.
Par contre, moi, j'avais prévu que si vous jouiez carte sur table, ce serait impossible si vous arriviez avec vos grosses couilles sur la table. Pardon pour le comment. J'avais prévu que c'était pas possible. Enfin, vous n'allez pas arriver en mode « Eh si, et on a tout cassé, et en plus, eh ben, vous n'aviez rien à dire. » Mais évidemment qu'ils vont pas vous
écouter. Il n'y a aucun monde où on s'en sort safe, quoi.
Si vous aviez posé ailleurs et que vous étiez arrivé en disant « On a découvert des choses, vous aviez commencé à faire un peu plus doux.
Ouais, » ouais.
Là, ça roulait, mais là, je me suis dit...
On aurait été à minima jugé, je pense. Je pense qu'on aurait quand même subi un tribunal.
Oui. Mais bon. Pas comme ça, tu vois.
Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on a subi. Mais bon, après. On verra ça après. Donc d'abord, on se retrouve tous à un point d'essoufflement et donc nous sommes emprisonnés. Et c'est là que tu passes la parole à Géraldine et qu'elle fait, en fait, entre guillemets, alors que nous, on est tous les deux en prison comme deux kékés et qu'elle va faire un micro solo dans le jeu qui a duré une dizaine de minutes, on va dire, où on comprend que c'est elle qui va venir nous libérer. Ça faisait vraiment, pour le coup, RPG, les Final Fantasy, où tu laisses des personnages dans la prison et tac, tu passes à l'autre perso. C'était vraiment très, très sympa. Et donc, du coup, Géraldine, à toi de jouer. Qui es-tu, Géraldine? Quel est ce nouveau personnage qui est Yona?
Yona, je suis la fille adoptive de Dricky.
Et voilà. Ça, on avait été un peu spoilé par Flavie dans le dernier podcast. Elle nous avait spoilé le fait que t'étais sa fille. Parce que t'imagines, on l'aurait pas. Enfin, ça aurait été marrant de pas le savoir, mais parce que lui, il nous avait, pour le coup, il nous en avait parlé.
Oui,
dans...
il vous avait dit que sa fille était Yona voilà. Et que c'était une ailée comme
une ailée.
Et l'épée. De... Oui, en
et,
plus,
et voilà. Et moi, en fait, c'est l'épée qui m'appelle parce que c'est mon épée que vous avez récupérée.
C'est lui. Ouais. C'est Mada. C'est
Calderic a récupéré Calderic. En bas.
Oui, tu viens pas pour nous, quoi.
Non, 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 je viens pour mon épée. À la base,
ouais. À la base, il y a son épée qui, en gros, à un moment où elle fait son scénar solo, et on va pas dévoiler pour l'instant ce qu'il y a dans son scénar solo parce qu'il y a des surprises dans le scénar solo.
Ok.
Notamment une grosse. Et mais en gros, à la fin de son scénar solo, à un moment, elle a une vision et il y a en gros l'épée qui lui fait putain, viens me chercher, on m'a
viens me chercher, je suis avec deux couillons.
Ça. Et à la base,
ça
de,
peut pas
je
bien finir cette histoire vu les deux gaillards.
C'est clair.
Qu'est-ce que tu disais, Géraldine ?
Normalement, je devais péter la gueule à Aldéric. C'est ce que j'avais quand même dans ma conscience et c'est ce que je voulais faire.
Ouais, d'accord. Quand tu découvres, c'est pas la peine parce qu'il est nul.
Ouais, c'est ça. Puis que vous étiez déjà emprisonné, donc de toute façon, vous pouviez pas tomber plus bas.
Ouais.
Donc j'ai dit bon.
Donc t'arrives dans ce bazar, quoi.
J'arrive.
Et puis voilà. Tu vas voir Drake.
Je vais d'abord récupérer mon épée, quand même.
Ouais. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, l'épée, moi, je l'ai plus.
Non,
parce
elle,
qu'on
est
emprisonné.
Elle est dans une.
Dans une salle à part.
Une salle à part.
La salle au trésor, non ?
Oui,
une salle au trésor où Géraldine me demande en même temps que l'épée. Hey, elle prend les deux autres.
Ah oui,
c'est ça. C'est je prends deux autres.
Dis donc,
je pourrais peut-être récupérer deux, trois trucs.
Et donc, à ce moment-là, je la regarde et en fait, la salle au trésor, en fait, c'est que d'anciens items, que d'anciens objets de l'ancien monde. Et donc, je la regarde, je réfléchis un moment, puis je fais d'accord, alors on va considérer que vu ce que tu as sur toi, tu peux en porter trois. Écoute, tu vas lancer un D20. 1, c'est le moins dangereux. 20, c'est le plus dangereux. Et comme... je te dis ce que tu récupères.
Comme je suis nulle au dé, autant vous dire que
tu as récupéré...
j'ai récupéré des petits trucs.
Elle
pas
a
trop
récupéré
dangereux.
Deux trucs pas dangereux et un truc
et
très
un truc
dangereux parce
pas
que
mal,
le, truc, pas, le truc très dangereux était à 18. J'ai c'est fait, ça. Oh putain, 18. Ok.
Je peux dire ce que j'ai récupéré?
Oui,
ah ouais,
ah,
vas-y,
oui,
vas-y,
bah,
vas-y, ça fait rêver.
Donc j'ai un magnifique baladeur avec une cassette qui joue Michael Jackson en boucle. J'ai un mixeur plongeur.
Un plongeur, oui, si,
oui
si.
C'est ça, un mixeur plongeur.
Et en fait, c'est très drôle parce que quand elle me. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très drôle parce que quand elle me demande en fait ce qu'elle récupère, du coup, je me contente de décrire les objets. Il y a un petit boîtier noir.
Un manche avec une hélice au bout.
Mais ça, c'est un peu bizarre parce que c'est un peu long et l'hélice semble protégée par une sorte de gang un peu ovuloïde. Elle me regarde, fait, c'est un mixeur plongeur. Ouais, c'est ça.
On va pouvoir faire des soupes. Et
ça va servir dans la mer tempête, tu vas voir.
Mais je pense que ça va nous servir.
Surtout que, comme vous le dites à un moment robotique, cela doit être branché pour avoir
oui,
accès au
ça.
Secteur.
Faut qu'on trouve de l'électricité.
Et vous le regardez, fait le secteur, quel secteur? L'électricité de secteur.
On lui a demandé si on pouvait les brancher sur lui.
Et il a dit oui.
Il a dit oui. Et le dernier truc, c'est un flacon. C'est
oui.
Ça. Hein
ouais. Un flacon sur lequel il y a un petit sigle.
C'est ça.
Avec des petits embranchements qui se croisent. Et un petit. Enfin bref, je vous décris.
C'est un,
une petite radioactivité.
Ah, pas radioactivité, un truc
oui,
biohazard.
Biohazard.
Hein.
Oh là là, truc trop dangereux. C'est ça qu'à 18.
C'est ça qu'à 18 et c'est ça qui était censé popper
oh
plus tard.
Ah cool. Mais en fait,
une épidémie.
Mais ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, donc d'abord l'ancien monde dont tu nous parles, en fait, c'est notre monde à
oui,
nous,
oui.
Ou en tout cas un monde futuriste. On l'avait déjà plus ou moins envisagé quand on est descendu sur l'île du bas.
Oui, donc, puis avec le vaisseau spatial, c'était quand même un peu bon.
Voilà, on avait décrit un univers post-apocalyptique. Ok. Donc voilà, donc ça c'est un premier élément. Et deuxième élément, on découvre que le Haven, donc Bjorn et ses petits copains, ils ont une salle. Dans le Haven, dans laquelle ils consignent, un petit peu comme dans Indiana Jones, vous savez, cette espèce de gigantesque hangar avec toutes les caisses, ils consignent des objets qui appartiennent à l'ancien monde, et on peut même dire qu'elles sont dans un espace confiné, en quarantaine. Ils semblent les craindre. Et donc du coup, c'est là que tu récupères nos équipements, en fait.
C'est ça, ouais. Exactement.
Alors toi, de quelle tribu tu viens ?
Alors moi, je viens des dragons.
T'es bien des dragons ? Oui, bah oui, comme ton père Drakis, qui est logique. Ok, d'accord. Et quelle est la particularité de la tribu des dragons, Géraldine ?
C'est tous les hors-la-loi qui ont été mis là.
Hors-la-loi, selon le Haven,
selon
c'est bien
le
ça.
Haven.
Hein.
Oui, ouais. Oui.
et qui du coup ne respectent pas là-bas, vu qu'ils étaient amis avec les ours et les loups et qu'ils sont et que ils ont continué à se raconter les histoires d'avant. En fait, ils savent ce qui s'est passé, donc ils ne respectent pas les tabous.
Donc toi, tu crains pas trop, comment dire, les objets qui viennent des autres mondes.
Non, justement, je suis très curieuse et.
C'est pas de superstition, quoi.
Non, c'est ça.
Et vous êtes un peu de fausse croyance.
J'ai l'impression, moi, tel que je l'ai compris, que vous étiez un petit peu des archéologues même, que vous les cherchiez ces objets, non?
Oui, oui, oui.
Ok, c'est pour ça que tu récupères aussi des objets
des
à ce moment-là.
Des objets d'autres choses, ouais.
Ok, ok. Ton père, du coup, il devient quoi, là, maintenant?
Ricky?
Ouais.
Là, au moment de à ce moment-là, dans le scénar, il est encore emprisonné, donc elle va passer le voir, d'ailleurs.
Ouais. D'accord. Il est dans sa chambre.
Et c'est là qu'il va lui parler de vous.
Ouais, c'est ça.
Ok.
En disant, en gros, c'est des boulets, mais je les aime bien. Non, il dit pas ça.
Oui, puis,
il
dit, on est utile, en fait, pour lui.
Voilà. On a des épées.
Il faut vraiment que tu les aides.
Voilà.
S'il te plaît, va les aider. Et tu leur fais, ouais. Allez,
donc je vais les chercher.
Et surtout que nous, on est en train de jouer à Laurel et Hardy pendant ce temps-là, et des scènes complètement débiles. Parce que lui, il est tout maigre et tout fin, moi je suis tout gros et tout balèze. Enfin, il y a un vrai côté Astérix et Obélix là-dedans qui est très amusant. Donc du coup, quand tu nous trouves, le couple est marrant, quoi, on va dire. Le couple de personnages est assez rigolo. Par ailleurs, moi je pensais que Dreki aussi, dans la mesure où il appartient au dragon, donc qu'il est intéressé par les objets de l'Ancien Monde, je pense qu'il a compris maintenant que nous, on avait une acquaintance particulière avec ces objets-là. Ouais. Et donc, potentiellement, en tant qu'ailé, je ne sais pas s'il se doute que tu as les mêmes pouvoirs parce que tu es une ailée. Ça, je ne sais pas s'il a fait le lien, mais en tout cas, il sait que, au moins Albéric et moi, on est capable de réactiver des choses, type effectivement des vaisseaux, les épées.
Oui, il en a été témoin de ça.
Il en a été témoin. Et donc, je pense que ça l'intéresse aussi de ce point de vue-là.
Ça l'intéresse aussi parce que rappelons qu'il est en train de monter une révolte. Ah bon, je sais pas si on l'avait dit dans les podcasts. Il est en train
alors,
de faire une révolte.
Ouais.
C'est
on le sait pas. On le sait avant ça.
Il le
sous-entendait.
Il l'a dit.
Mais là, c'est clair et net après le scénario.
En fait, il se met d'accord avec certaines tribus. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle Yona est en retard, c'est parce qu'elle est allée traiter avec notamment la tribu des beaux gosses.
Ah, c'est les comment ils s'appellent? C'est ceux d'où je viens.
Les Pégases.
Les Pégases. J'allais dire les juments. Les Pégases. Les chevaux. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai du mal
ceux
avec les tribus encore.
Ceux qui font la magie du sang et notamment pour
l'eugénisme.
L'eugénisme.
Ouais. Tout à fait.
Qui est digne. D'ailleurs, Yona a subi la magie du sang pour savoir si elle était digne du pacte et elle était digne du pacte. Son sang était pur.
Donc alors attends, donc le
ils sont un peu moches les Pégases.
Donc ton père Dreki, oui mais ils sont très beaux à l'extérieur.
Oui, c'est ça.
Bon, il y a que ça qui compte.
C'est les elfes dans le premier Lorwyn quoi.
Ah
moi je les ai envisagés un peu comme ça.
Alors tu me les as décrits comme des Chris Emeralds et tout.
Oui oui, bah ouais.
Tu vois les imaginais plus comme
ouais.
OK. Moi je les imaginais vraiment plus comme les Asgardiens dans Marvel.
Ah ouais mais mais les Asgardiens, ils ont les oreilles pointues.
Ouais.
Ils ont un petit côté elfique aussi, je trouve. Ils ressemblent un peu aux ailes de Warhammer.
C'était volontaire.
Ouais, ok. Parce que c'est pour ça moi, que je viens de là-bas, parce que c'est des beaux gosses. Tu comprends, Antoine, j'espère. Donc voilà. Et donc, du coup, Dreki, il fait sa révolution très bien. Et donc, avec les beaux gosses, donc les Pégases, et est-ce qu'il a d'autres alliés? On le
pour
sait, ça
vous le
on
ne
sait
pas.
Alors que fait Aldar pendant ce temps-là avec son marauté?
Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a une scène de répit.
Antoine.
Et comme Fabie. Antoine aime bien jouer, pas du tout pour loser.
Non. Play to drama. Il disait.
Voilà, pas lose.
Voilà.
Jamais lose.
Jamais lose.
Jamais lose.
Play to drama.
Il me dit.
On va lui accorder
ce
ça.
Ce qui serait super. Ce serait que je me rende compte quand je vais la voir qu'Aldar est soit en train de me tromper.
Non, mais parce que je ne sais plus pourquoi je me mets dans le corps de mon corbeau. Je fais une transposition d'esprit pour voir où est.
Pour vérifier si elle n'est pas en danger.
Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, je propose que je surprends une scène de coït avec.
Attends, j'entends pas, Gérald. Qu'est-ce que tu
dis? On est dans la chambre de Dreki à ce moment-là.
Ouais. Oui, oui.
Ah oui, nous, on est dans
la chambre. Je vous ai libéré et on est revenu dans la chambre de Dreki.
Et donc, lui, il va utiliser son corbeau pour espionner ce que fait son amante, Aldar.
Enfin, mon amante, oui.
Enfin, la fille qu'il aime bien.
Voilà.
La fille dont il est amoureux, mais pour l'instant, il s'est juste passé une petite
scène. Donc, ouf, elle est vivante. Je vais à la fenêtre avec mon corbeau et en fait, je vois que, bizarre.
Elle est bien vivante.
Elle est bien vivante.
Emmêlée dans le lit avec Bjorn.
Et elle est en train de tracer une rune sur lui.
Plusieurs runes.
Deux.
Aïe, 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 Antoine, c'est le drame.
Je suis surpris.
C'est le drame.
Non, je comprends pas ce que je vois.
Plus que ça.
Donc,
Bjorn,
qui est pour l'instant le méchant de notre histoire. Hein, donc,
elle est en train. Elle trace deux runes sur son torse. Et toi, tu te dis, oh mon Dieu!
Elle a fait la même chose à moi.
Eh oui.
Oui. Donc, je me dis, ça y est, en fait, je me suis fait U.
Et tu me dis, elle me ment. Est-ce que ce sont les mêmes runes? Et donc, je te décris les runes. Et non, ce ne sont pas les mêmes runes. Mais tu vas décider plus tard d'aller la confronter.
Bah là, il y a des gros doutes, ouais. Je me dis, il y a une chance sur deux, quoi. Que ce soit pour nous ou contre nous.
C'est ça.
Et quand tu vas la confronter, sachant... elle te dit qu'elle a tracé la rune du pouvoir force et du pouvoir de la quête sur lui dans le but de le contrôler. Pour l'obliger à vous écouter lors du tribunal qui va avoir lieu le lendemain.
Elle a fait ça pour nous sauver.
Alors, exactement. Pourquoi ? Il faut expliquer.
Ah oui, il y a un tribunal.
Voilà. Il y a un tribunal. On a été enfermés dans une prison pour être jugés le lendemain. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On s'évade de la prison. Normal. On est bien. On est bien.
Vous m'avez obligé, parce que je prends des notes au fur et à mesure du scénar, et vous m'avez dit, tu le notes celui-là, Mada et Albaric apparaissent en hommes libres en tribunal.
Voilà,
oui, si
ça.
Vous voulez, donc je les note
par dessous.
C'est très important pour moi, parce que je sais que c'est moi qui ai insisté là-dessus, donc voilà, je vous entends rire, mais oui. Bon, je vais m'expliquer. Si nous sommes en prison et que nous sommes emmenés au tribunal, nous subissons le procès. Alors que si nous sommes libres, c'est-à-dire que merci Yona de nous avoir libérés, eh bien nous choisissons de nous rendre au procès. Ce qui nous met en position de force, parce que ça veut dire que c'est nous qui décidons. Tu vois, on n'a pas fui le jugement du Haven.
Oui.
On a accepté l'idée que on serait soumis à cet injuste procès que va nous faire Bernardo Guy, là. Enfin Bjorn, pardon. Donc voilà.
On voulait juste dormir dans un lit, hein, en fait.
Oui, bon, aussi, évidemment.
Au début, vous allez, et ensuite après, tu rêves de tes parents d'ailleurs quand tu es.
Mada. Albéric.
Albéric rêve de ses parents. Dans ce petit lit douillet.
Ouais.
Après avoir confronté du coup. Alda.
Oui, je sais plus ce que je dis. C'est encore un truc de drama, hein.
Bien sûr.
Oui, sans doute, hein, Antoine. Hein.
Comme. Parce que c'était l'amour de mes parents autour de moi, mais il y a un truc qui cloche.
Voilà.
Ouais, ça crie, ça hurle.
Avec des
flammes. Ouais.
Et surtout, tu vois ta mère.
C'est génial. Mmh.
Tu vois ta mère dans cette vision.
Et
mais tu
manges
tu ne sais
un gâteau,
pas si
apparemment.
C'est toi. Mais tu ne sais pas si c'est ta vraie maman ou si c'est ton cerveau à toi qui imagine ta maman comme
ça. It's complicated.
It's complicated, apparemment.
Et c'est dramatique.
Exactement.
Va falloir que je résolve ce mystère.
Oui, bah
de mes parents, ma mère, tout ça.
C'est dans les cartons, t'inquiète pas.
Ce qui est sûr, c'est que tu vis des choses quand tu dors. T'es éveillé quand
je parle dans mon sommeil.
T'es éveillé.
Oh, oui, j'ai marqué.
Ouais, il parle dans son sommeil.
J'ai marqué.
Intéressant ça.
Mada ronfle et parle dans son sommeil.
Mada, bah, c'est moi.
Mamana, ah bah c'est toi.
Ah mince, c'est toi.
Oh merde.
C'est toi.
Alors, comment
qui
j'ai rien à dire dans mon sommeil. Lui, il vit des trucs de fou dans son sommeil. Ah, c'est lui qui devrait parler. Moi, je suis là, je suis juste là. Vas-y. Albéric, c'est une mauvaise idée.
J'ai toujours dit.
Donc on arrive en homme libre à notre propre procès.
Il y a Géraldine, elle, qui Géraldine. Va voir, qui retourne dans sa chambre où il y a ton chevalier servant.
Ah, j'ai oublié.
Qui attend désespérément. Il est extrêmement patient et quand t'arrives,
il est épuisé.
C'est ton écuyer.
Alors pourquoi il est épuisé ? Faut raconter ça. Moi, ça m'intéresse, Géraldine, de voir. Pourquoi il est épuisé ?
Parce que en fait, il fallait que je fasse comme si j'étais dans la chambre pendant que je vous sauvais. Et du coup, je lui ai demandé de coïter pendant...
De faire de semblant que vous faisiez l'amour, voilà. Donc il a fait des bruits pendant... Et ça a duré longtemps.
Ça a duré longtemps, vous avez été long.
Oui, parce que vous...
Quelle réputation.
Géraldine, c'est toi qui as été dans le truc
oui,
de
confinement.
Oui, j'ai été
chercher deux, trois trucs, d'accord.
Hein, c'est toi qui as lancé trois fois le dé après tout. Donc voilà, t'aurais pu lui faire... T'aurais pu lui faire arrêter sa sensibilicoïte avant, alors. Donc bon, c'est un peu de ta faute. Et en plus, elle a vu son père et ça a pris du temps. Enfin bref.
Elle avait des trucs à jouer, quoi.
Le pauvre.
Donc
voilà.
Il avait fait, trop bien, j'avais plus de voix.
C'était trop marrant.
Tu lui expliques que t'es allé, chercher les autres.
Il est marrant ce personnage. Juste, on s'arrête.
Il est très attachant.
Oui. Ton écuyer, en fait, c'est quoi?
Oui, c'est mon ami.
Comment il s'appelle? Tu te souviens de son nom? Parce que Géraldine n'a pas son carnet. Alors
oui, j'ai oublié mon carnet, je suis désolée.
Ouais.
Comment, c'est un écuyer plus
non,
affinité.
C'est pas un écuyer, pardon. C'est un ami en fait. J'ai grandi avec lui.
Il est dans
vois.
La friend zone okay. D'ailleurs. Je
ouais.
Lui,
il est amoureux
ton,
de
lui,
moi.
Il est ultra amoureux de toi, c'est ça. C'est toi, c'est ça.
Ah, mais tu l'as mis dans la friend zone.
C'est ça.
Parce que c'est pas
Ragnar.
Un dragon.
C'est
pas
Ragnar.
Un dragon.
Ragnar.
Un Ragnar, c'est
un grand blond à peau noire, secrètement amoureux de toi, mais qui est dans la friend zone.
Quel horrible terme. La friend zone. Quel concept incroyable.
Parce que je me suis amusée quand même quand j'ai été chez les Pégases et il était là et du coup il était un peu dégoûté.
Mais bon, il était dans la chambre à côté.
Oh là 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 là, le pauvre.
T'étais avec Pietard, c'est ça, chez les.
Mais il est prêt à tout pour toi. Il est prêt à tout
mais
pour
par
toi.
Contre, voilà, il est très pratique.
Très pratique. Oh mon Dieu. Voilà, mais ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça en dit long sur ton personnage, en fait. Ça, on commence comme ça à dévoiler Yona un peu, à comprendre un peu mieux à qui on a affaire. Très intéressant. Donc je trouvais ça sympa comme scène et comme relation avec ce personnage.
Et donc quand ils te demandent alors ils sont comment, tu le regardes et tu dis « Oh c'est des boulets !»
Ils sont bêtes.
Non.
Si, on en a rajouté sur le Astérix et Obélix.
Oui.
Ah, c'est vrai qu'au dernier scénar, moi, à un certain moment, j'ai rien dit pendant plus d'une demi-heure. Je vous ai regardé comme ça, j'étais là. Oh, il me faudrait juste un truc à grignoter.
Oui, bon, après.
C'est le RP débile, quoi.
Ouais, bah, c'est que les joueurs ont un peu cabotiné.
Ah bon, mais c'était très
bien. Mais les personnages sont un peu plus classe que ça, je pense.
Oui.
Bon, un peu plus.
Donc, on décide juste de dormir dans un lit douillet. Mais on va quand même venir au procès.
Voilà.
Hein, parce
voilà.
Qu'on n'est pas des merdes.
Et de dessous la scène qui a été construite.
On va se lever hyper tôt. On va se lever hyper tôt et attendre des heures sous la scène. Comme ça, ça fera un effet de fou.
C'est encore mon idée de merde. Non, mais c'est réaliste, tu vois.
Et du coup, c'est pas à l'endroit. Du coup, normalement, on fait les procès tout ça, vu que c'est toujours garé là, le vaisseau. Donc, ils ont été obligés de prendre un autre endroit. Comme quoi, il n'y avait pas que cet endroit-là qui était plat, comme je vous l'avais précisé. Mais voilà. Et donc, le procès commence. Et grâce aux runes de Haldar, Bjorn vous écoute.
C'est ça. Les runes d'Haldar, finalement, vont servir. C'est-à-dire que là où tu croyais assister à travers le corps de ton corbeau, Albéric, à une scène de trahison, en fait, tu assistes à une scène de soutien d'Haldar.
Ouais, son cœur reste ouvert, quoi. Il écoute ce qu'on a à dire.
Attends, tu parles de Bjorn.
Oui,
Bjorn, Bjorn, oui.
Oui, le pardon. Cœur
d'Aldar, le cœur
non,
d'Aldar,
non,
c'est Aldar, chose,
à ce moment-là, je comprends qu'elle a dit vrai, quoi.
Non, parce que je trouvais ça intéressant comme retournement de situation. C'est-à-dire que de voir la scène avec Haldar où on dit en fait, elle le trahit. En fait, c'était
en fait
tout
j'aime bien jouer avec les attentes de drama de Antoine. Parce qu'en fait, il espère toujours un truc dramatique.
Ouais, j'étais un peu déçu que finalement, c'était bon de sauver.
De façon à ce que. Ça a l'air dramatique, en fait ça l'est pas. Et quand il va vraiment se passer un truc dramatique, j'ai prévu un truc tellement énorme qu'en fait c'est pas du tout ce qu'il a prévu et je pense que ce sera pire.
Juste donc, répète ce que tu viens de dire, Antoine, s'il te plaît. Tu étais déçu que finalement ce soit pour t'aider, c'est ça?
Ouais.
Et après, quand on dit qu'il joue Play Toulouse,
mais non,
Play Toulouse drama.
Ouais, mais c'est
drama.
Ouais, mais c'était un drama très court, quoi.
Oh, elle me trompe.
Ah non. Voilà.
C'était un peu le drama de Chegué, quoi.
Ouais, c'est... Il aurait fallu que ça dure plus longtemps, quoi.
Ok, d'accord.
T'inquiète, mon petit Antoine, t'inquiète.
Ok.
La pire qui arrive.
Yes.
J'ai bien entendu au fur et à mesure, mais en fait, pour pouvoir qu'il y ait du vrai drama, Antoine, il faut d'abord avoir plein de choses à perdre.
Ouais.
Et il faut vraiment que ce soit bien installé, tu vois.
Ouais.
Parce que sinon, c'est pas drôle. Sinon, tu vas pas pleurer.
Ce qu'elle est en train de te dire, c'est qu'il faut que t'acceptes de play to win quelques scénarios avant de pouvoir play to drama, pardon. J'allais dire play
bah,
to
j'ai
win,
robotique, mais... j'ai toi.
Ouais, bah attends, c'est bon, moi je vais pas servir à tes trucs play Toulouse là. Bah, c'est pas question. Hein. Bon, donc, très, très bien. Donc voilà. Et donc nous voilà à notre procès.
Et
alors là, ben, il faut parler, il faut se défendre, sachant qu'on a beaucoup, beaucoup de gens qui sont contre nous quand même. Hein.
La moitié de l'île.
Parce que oui, mais non, je dirais la totalité de l'île.
Au début.
Est contre nous.
Ouais, et puis au fur et à
et
mesure.
Par contre, heureusement, Dreki est là, quoi.
Oui.
En gros.
Oui.
Je résume bien en disant ça. Mais je pense que.
Il y a quelques ambassadeurs qui sont
oui.
Ouverts. En tout
dans
cas.
Les colibris sont très ouverts.
Alors pourquoi d'ailleurs ça c'est bizarre. Pourquoi
c'est à
ils
cause
sont...
d'Antoine.
Ah, grâce à Antoine.
Ouais.
Ouais. Faut dire.
Mais après. Je pense qu'on est indéfendable. On nous a dit de rien toucher, on arrive avec tout.
Non, on a promis de rien toucher. On nous a pas dit de rien toucher. On s'est promis.
Oui, c'est vrai qu'on l'a dit de nous-mêmes. On a dit, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout.
Alors qu'on
ne touchera rien.
Alors qu'on savait.
C'est pas les Pégases. Tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on parle des Pégases, mais c'est les faucons, les beaux
gosses. Ah, les faucons, les beaux gosses.
Et il y a les aigles, ceux qui vous disent innocents aussi.
Bah, aigle et colibri.
Bah oui. Il y a les faucons qui vous disent innocents, les condors qui vous disent innocents.
Mais les corbeaux nous condamnent.
Ah ouais, ça c'est dur pour toi parce que Aldar elle fait partie des corbeaux, elle est la fille du chef des corbeaux.
Ouais, mais elle est obligée de suivre son père.
Non. Les chouettes vous disent coupable, et donc toi ça. Après non. Ça, vu que les chouettes disent que vous êtes coupable, tu vas être obligé d'abandonner ta caste. En fait.
Toi c'est moi,
ouais,
toi c'est Romaric.
Ouais. Romaric, tu vas être obligé d'abandonner ta caste vu que les chouettes t'ont jugé
alors,
coupable.
Alors de toute façon, moi les chouettes ne m'ont jamais trouvé chouette en fait. Parce
accepté.
Que clairement, ils m'ont jamais accepté. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours été beaucoup trop faucon, du coup, c'est ça ? Par rapport à...
Ouais.
Ouais, c'est ça ?
Ouais.
C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est...
Non, non, non,
c'est
non.
Quoi, alors, les Pégases, du coup,
les Pégases,
excuse-moi.
C'est
ah, c'est
les,
marrant,
la
ça.
Et tout ça.
Ok. Ok, donc, c'est bien les faucons.
Pardon, je l'ai dit, les Pégases, c'est les humains qui font la magie des couleurs et voilà. Sur du vert.
L'équivalent des nains d'Asgard, enfin, les...
Non, les nains,
les
c'est...
Non. Ah non, je dis de la merde.
Non,
oui.
non,
je dis de la merde.
Tout, pas du tout, les nains.
Ah, faut que je reprenne. Ah, je suis désolé, en plus, j'ai pas mes mais bon.
Les nains, c'est les.
Les
mouettes,
du coup.
Les mouettes.
Les Pégases,
ah, je me suis complètement planté.
Ouais,
ok, d'accord. Les faucons, donc c'est les beaux gosses. Les Pégases, c'est les humains.
Les condors, c'est les géants.
Les mouettes, c'est les nains. Les chouettes.
Ouais,
c'est les elfes. Ok, moi en gros, de toute façon, chez les chouettes, j'ai toujours été suspect et suspecté. Ils m'aiment pas, ils me trouvent trop guerrier, trop bravache. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des moutons qui obéissent, qui rentrent pas. En gros, les chouettes, quand tu nais chouette, tu nais avec une destinée. T'as un tatouage sur le front, t'es marqué en fait au fer rouge, et tu dois pas sortir du rang. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment le truc facho de chez facho.
Exactement, c'est un système de caste.
C'est un système de caste. Hein. Et tu peux pas te marier, enfin tout est très codé, codifié.
Et t'as marqué sur le front, t'as une rune qui indique de quelle caste tu es sur
moi,
ton front.
Moi, j'ai jamais pu blairer l'ordre établi. T'as qu'à voir Bjorn, il arrive avec son D20, je sors mon épée, je me fais défoncer. Donc déjà, je vais pas dans le tableau. Je suis beaucoup trop baraqué par rapport, même si j'appartiens à la case des guerriers, je suis beaucoup trop baraqué pour être une chouette. Et je m'entends pas avec... En fait, en gros, dès le départ, les chouettes, ils me donnent une mission. Ils me disent, un peu déshonorante pour quelqu'un comme moi, qui suis droit... qui est la droiture en fait en territesse quoi, on va dire simplement dans le Trip to Sky ce serait territesse. Là ici dans Trip to Fly, je sais pas si t'as gardé les souffles, mais voilà, c'est différent. Mais moi je suis comme ça, je suis droit, et en fait dès le départ ils me disent oui, la case des corbeaux veut se rapprocher du Haven, faut comploter, faut l'empêcher, faut casser la dynamique, faut reprendre le contrôle, faut qu'on se rapproche du Haven et tout machin, tu vas être bien comme ça, comme ci, comme ça. Dès le début, la mission qu'il me donne, elle me fait chier. Dès le début, de toute façon, je sais que ça va mal se passer parce que dès le début, je me dis, ça va pas. Donc là, évidemment, quand je reviens, c'est une catastrophe, quoi. Et donc, je les envoie chier et tout. Ah, c'est pas bon. Bon.
Et du coup, là, donc, tu pars. Et à la fin, en fait, du tribunal, ce qui est décidé, c'est comme, en fait, il y a autant de gens... il y a les, ceux qui vont voter, en fait, qui représentent leur tribu, donc les diplomates. Il y a autant de voix innocentes que de voix coupables. Du coup, personne n'a pu trancher. Donc, dans un mois, il y aura le grand tournoi. Et le meilleur combattant, à la fin, c'est celui-là qui choisira. Du coup, pendant ce temps-là, vous ne savez pas trop aller. Vous ne savez pas trop où aller. Et Dreki et du coup, Yona vous proposent d'aller chez les dragons.
C'est ça.
Et Dalda, Dreki est trop content. Il dit « Ah, vous allez voir comment c'est chez nous !» Et en effet, vous allez voir que c'est...
Et c'est là-bas
différent.
Qu'on va...
Et donc, chaque tribu aura un champion.
Voilà, c'est ça.
Oui, exactement.
C'est okay. Un système de... finalement, on tranche le jugement par une espèce de...
D'ordalie.
Ouais, une ordalie entre combattants. En gros, le principe de l'ordalie, c'est celui qui gagne qui a raison, quoi.
Exactement.
Donc, du coup, les dieux lui ont accordé la raison. C'est le truc de Saint Seiya, quoi. C'est vraiment.
Et ce sera au centre de l'île.
Yes.
Ouais. Et ça, en fait, ça boucle avec un truc, mais c'est loin dans mon souvenir. Mais il me semble que dans Trip to Sky, dans le livre de Trip to Sky, il est dit que au temps des tribus, ils se rejoignaient pour jouter, pour se il y avait des tournois qui étaient organisés,
oui,
ou je sais plus quoi.
Oui, ça fait référence à ça.
Un peu, et ça, là-dessus, je m'étais inspiré de l'histoire de Stone Age, où il y avait toutes ces tribus qui se rassemblaient pour faire des
Jeux
Olympiques.
Justement, figure-toi que ce sera, ça voilà. ressemblera
donc
beaucoup.
Donc ça va ressembler à tout ça. Donc ça c'est très cohérent.
Mais on n'a pas dit qu'est-ce qui fait qu'il y a des tribus qui penchent en notre faveur.
Voilà, c'est ça. T'es passé un peu vite sur le procès. Moi, oui, j'aimerais bien qu'on décrive un petit peu les arguments.
Parce qu'à la base,
on
est condamné, quoi, d'avance.
Bah, je vous laisse raconter.
Tu veux commencer, Romaric ?
Ben, d'abord, il y a un désir de connaître et de changement qui
oui.
est très présent. C'est-à-dire, il y a cette idée que ça fait des années qu'on vit. Alors oui, on vit en paix. Oui, on vit en harmonie. Oui, les tribus, machin. Mais il y a un élément quand même de oui, mais on sait pas d'où on vient, on doit sacrifier des gens pour survivre, est-ce qu'il y a pas d'autres solutions, et pour ça faut explorer.
Et puis Drakey annonce aussi que les îles tombent,
donc voilà,
voilà.
Ah, oui. Alors,
on met les pieds dans le plat en fait, avec les loups et les ours, en expliquant que c'était une partie de l'île qui a été cassée, brisée, qui est remontée, les sacrifices inutiles, on a trouvé tous les cadavres.
Ça, c'est un bel argument, ouais.
Les oiseaux, moi j'expliquais que c'était un oiseau géant par tribu, c'était un cadeau, un tribut offert aux tribus.
Ça c'est génial aussi, hein. Ça c'est bien vu parce qu'en plus, c'est possible. C'est possible que ce que t'es réveillé ce soit un pégase, un faucon, un colibri, parce que je me souviens toi, t'as décrit, quand t'as fait la description des
oui,
oiseaux
oui.
qui ont été réveillés.
Pas de pégase et de dragon quoi.
Non, mais il y avait. Il y a ce qu'il faut.
Si, il y a ce qu'il faut.
Il y a ce qu'il faut.
Ouais.
Il y a ce qu'il faut.
Même, t'avais décrit justement qu'il y avait un tout petit oiseau.
Je l'ai travaillé.
Tout petit oiseau.
Il y avait un pégase. Hein. Moi, il me semble qu'il y a un pégase.
Il y a un pégase.
Ouais. Il me semble que tu l'as décrit aussi.
Mais c'est un pégase. Enfin, c'est ce que vous prenez pour un pégase. En fait, il faut savoir que j'ai traîné.
Un colibri.
Alors, c'est pas un colibri, mais en fait, il faut savoir que je suis allée sur Wikipédia à la page des oiseaux. Et que j'ai passé des heures
ouais, pour regarder,
pour prendre en fait des oiseaux en fait qui correspondaient aux tribus. Okay. Donc ce sont des oiseaux du Grand Nord, donc ils peuvent être. Alors évidemment, bah, ce sera pas un pégase, mais ce sera un gros oiseau moins joli, voilà. Mais mais il y a un oiseau par tribu qui correspond. Et il y en a un tout petit. Et, j'ai découvert qu'en fait, les rouges-gorges allaient dans le Grand Nord, par exemple, en faisant cette recherche. Si vous voulez tout savoir.
Donc, tu vois.
Des oiseaux. Donc ça, c'est un argument que tu avances.
Rappelons qu'on est dans un monde où il n'y a pas de bateau volant. Il n'y a pas de moyen de transport.
Non,
donc un oiseau géant par tribu, c'est quand même... un game changer.
Ouais. Bah, c'est la maîtrise de l'aérien, quoi. Ça, quand on est dans l'armée, on sait que c'est très important de maîtriser le ciel. Donc, évidemment, celui qui maîtrise le ciel, il maîtrise le champ de bataille, en fait. Parce que si tu veux diriger, tu vois, des armées, le contrôle aérien, c'est ce qui est le plus important. Donc, c'est très bien vu, ça. Hein. Ça, Antoine, c'est bravo.
Mais on n'a pas parlé des oiseaux après, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus,
non.
finalement, après le procès.
Non, mais
alors,
attends,
on
parce que là,
pour l'un
ça,
d'entre eux.
On a laissé plein de choses en suspens. Alors, oui, alors pour l'un d'entre eux, lequel ?
Pour Maraouté, l'aigle, sait que Aldar, elle repart avec.
Voilà,
oui.
Aldar repart avec son aigle.
L'a déjà apprivoisé, apparemment.
Apparemment, c'est déjà apprivoisé, exactement. Donc, très bien. Donc, les arguments, on les résume. Donc, envie de changement, envie d'explorer, envie... Donc, cette idée de que les sacrifices n'ont servi à rien, puisqu'on a retrouvé effectivement tous les sacrifiés ou une partie des sacrifiés. Cette idée qu'on a trahi jadis deux autres tribus, qui sont la tribu des loups et la tribu des ours, qui ont été séparées en fait de l'île principale Yggdrasil suite à l'usage de ce qu'on envisage être une arme de destruction massive.
Et qu'on a rencontré des survivants en mauvais état, mais. C'était ça aussi l'argument.
Ouais, ouais. Ça, justement,
on leur
verra.
A parlé, quoi.
Oui, mais ça, on verra justement que. Parce que là, on est en train d'énumérer les arguments pour faire avancer l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire avec un grand H d'Yggdrasil. Mais il y a aussi les arguments conservateurs. C'est-à-dire les arguments de ceux qui ne veulent pas que l'histoire elle avance. Et l'un des arguments maintenus par les conservateurs, et notamment par les Pégases, me semble-t-il, les humains, c'est de dire qu'eux, ils ont vu. Des virus, des maladies en fait qui venaient.
Ah non, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent qu'il y a eu des vaisseaux qui sont arrivés et qui ont apporté la guerre. Et qu'en plus, quand ils descendaient,
exact.
En fait, là, les gens tombaient malades.
un peu comme nous on le sait en tant que personne du 21e siècle, un peu comme quand les conquistadors ils arrivent et que ce qui bute les gens en fait c'est la grippe majoritairement et les rhumes. En fait ils disent que quand des gens comme ça arrivent en fait ils apportent la catastrophe et la désolation et donc il faut laisser personne.
Alors moi j'ai d'autres hypothèses parce que vu, alors il y a deux types de maladies qui pourraient apporter au vu de Trip to Sky et au vu de ce qu'on a vécu avant. J'ai d'autres hypothèses et d'autres maladies très ciblées qui ne sont pas vraiment des maladies, mais plutôt des éléments du Romaric, du brillant
Holistic Universe. Oui, il y a celui-là aussi.
Voilà, mais qui est j'ai trouvé ça très bien amené et très intéressant. On ne va pas en dire trop pour le moment, mais...
C'est parce qu'en fait, vous avez croisé en fait, des gens qui ont été attaqués par... Enfin, le robotique vous dit, il y a des nanomachines.
Je ne veux pas spoiler les gens qui nous écoutent s'ils n'ont pas fait les autres jeux. C'est pour ça que je dis...
Oui.
Voilà.
Juste dans ces cas-là, on peut sur le lore, ils comprennent en fait. Robotique leur explique qu'il y a des nanomachines qui ont été mélangées dans leur sang et qu'en fait les nanomachines ont continué à les réparer.
Oui.
Et qu'en fait, les loups et les ours que vous rencontrez, en fait, à la fin, ils ressemblent plus à rien.
Voilà.
Et vous rencontrez aussi des cadavres. Vous voyez des cadavres qui ont l'air d'avoir été attaqués par ça, en fait.
T'avais un peu pensé à dans Shadowrun, c'est les gens qui s'implantent en fait des membres artificiels, ils perdent progressivement de je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros au bout d'un certain moment en fait ils ont tellement remplacé en fait leur corps par des pièces robotiques qui cessent complètement en fait d'être des êtres humains et qu'ils deviennent des espèces de zombies de métal en fait inconscients et tout ça, c'est vachement intéressant. Et donc là c'est un peu le même truc sauf que c'est via des nanomachines.
Ouais. Mais l'idée de toute façon, moi je l'avais dit en faisant Trip to Fly, c'était de faire des rappels aussi des autres jeux que t'as fait.
Ouais.
Du Romaric Extending Universe.
C'est très réussi. Et du coup, donc ça, c'est quand même à verser au volet des arguments contre l'exposition du reste des Yggdrasiliens aux objets qu'on a ramenés.
C'est pour ça que les Pégases sont contre. C'est ouais. Parce que eux, en fait, l'une des raisons pour lesquelles ils ont construit aussi
le Bifrost,
c'est justement
pour se défendre
face à tout ça qui arrivait.
Ça veut dire qu'il y a des vaisseaux qu'on a attaqué. Antoine, je me souviens que ça l'avait fait tiquer. C'est-à-dire quand même qu'il y a des vaisseaux qui sont arrivés par l'ouest et qui ont attaqué Yggdrasil. C'est quand même un truc de fou. C'est quand même une révélation incroyable.
De toute façon, vous êtes encore que sur l'île, les cocos.
Ouais, c'est sûr. Mais bon, ça veut dire qu'il y aurait d'autres îles. C'est là que tu dis, tu fais l'hypothèse qu'il peut y exister d'autres îles. Antoine, je crois que c'est toi qui balance ça.
Ouais, déjà parce que l'île sur laquelle on était est repartie, elle est remontée puis elle est repartie, on sait pas qui a déclenché le mécanisme, on a une petite idée puisqu'il y a une cinématique de fin post-générique un peu bizarre.
J'en parlerai après.
Okay.
Il faut savoir qu'à la fin du dernier scénar de Romaric et de Antoine, en fait, Robotique leur dit que quelqu'un a dû remettre en place,
redémarrer
l'île en fait pour qu'elle remonte.
Oui.
Il y avait quelqu'un d'autre sur l'île qu'on a explorée, qui l'a remise en route et c'est pour ça qu'elle est remontée. Il a remis les moteurs en route.
Ouais.
Mais nous, on sait comment les joueurs, ce qui est génial, c'est cette ironie dramatique constante, c'est que les joueurs ont des nettes idées, et puis surtout Antoine et moi qui connaissons très très bien pour le coup à la fois l'univers de Sens. Toi, Géraldine, je pense que tu prends tout dans la tronche.
Ah, moi, je découvre complètement.
Ouais. Donc,
j'adore. C'est génial.
Mais nous, en tant que joueurs, on voit en fait les références aux autres univers, on comprend un petit peu les pièces et les pions, mais c'est délicat et compliqué. Et toi, Géraldine, tu découvres que ton épée, c'est pas n'importe quelle épée.
Et non.
C'est celle d'Echo.
Je ne spoil pas.
Non, vas-y.
Tu peux.
Du coup, c'est l'épée d'Echo, ouais.
Mais alors, qu'est-ce que ça implique? Tu savais, toi, que t'aurais l'épée
je le découvre en même temps que
Et décris ton épée, si tu te souviens. Il y a une partie où c'est un manche droit. Enfin, l'épée est droite.
Ah oui.
Et à la fin, elle est sinusoïde.
Ah oui, il y a les signes, ouais. Oui, c'est ça. Il y a le signe...
Comme un S, là. Parce que le signe d'écho, c'est un signe sinusoïde.
Non, c'est vraiment un truc comme une hélice au bout.
Ah, comme une hélice,
ah oui,
okay.
Non, d'accord, ok.
Mm. Ah, c'est intéressant, ça. Ok. Ah oui, parce que moi, j'avais envisagé ça, en fait. À la base, je pensais que c'était une lame noire. C'est une lame noire, ok, d'accord.
En partie.
Ok, d'accord, ok. Ah donc du coup tu l'as bien écrite parce que j'avais envisagé ça comme une ok d'accord ok 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 Y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête. Bon, Géraldine, qu'est-ce que tu as pensé de Trip to Sky? Du coup, toi, c'était premier scénar de Trip to Sky. Tu découvres le jeu.
Oui, complètement.
Alors, qu'est-ce que tu en penses? Que le système.
Eh ben, très cool. C'est. On est très libre, au final, dans ce qu'on fait. Et en fait, le MJ, ça doit être assez compliqué d'être MJ aussi, parce que. Parce qu'en fait, faut toujours suivre son joueur et se dire ouais. « Ah merde, attends, il a fait ça, il a dit ça. » Alors attends, c'est pas du tout ce qui était prévu. Donc je pense que pour Fly, ça doit être aussi simple.
Figure-toi que pas du tout, en fait, j'ai une trame globale. C'est-à-dire, je sais à peu près où vous allez aller. Je sais pas comment vous allez y aller.
Okay.
Et...
Donc t'es comme nous.
Ouais, c'est pour ça que j'adore masteriser ce jeu. Je pense que c'est le seul jeu de rôle où le MJ est quasiment dans la même position de joueur que les autres. Je trouve qu'il y a un
maelstrom. Ce qui peut être dur pour beaucoup de MJ.
Ouais,
faut être proactif.
Il faut vraiment
quoi.
Se laisser
ouais.
guider. Il faut se dire, je vais réagir à la table. Mais moi, c'est ça que j'aime. Ouais. Mais moi, c'est ce que j'aime en tant que MJ. Moi, le MJ dirigiste, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est réagir à ce que font les joueurs. Des fois, même juste comme j'ai fait la dernière fois, tout poser, vous regardez là.
Tu vois, tu me demandais, Antoine, pourquoi est-ce que c'était pas Flavie ? Parce qu'Antoine va maîtriser bientôt Vadémécom au fil, là. Et tu me disais, Et tu me disais, pourquoi c'est pas Flavie qui le maîtrise ? Tu me demandais. Et en fait, c'est parce que Flavie.
Je suis incapable de masteriser.
Le dirigisme, d'une façon générale. Enfin, tu sais, des scénarios qui sont écrits à l'avance. Elle est incapable. Et il faut qu'elle se laisse la liberté de pouvoir changer, de pouvoir...
Et en fait, même si j'ai une trame globale, il faut vous dire que par rapport à ce que j'avais imaginé à la base, ma trame, elle est fuckée depuis... Mais à chaque fois, je rattrape 2-3 trucs, je sais où je vais. C'est-à-dire qu'il y a quand même la scène où vous êtes allé sur l'île, celle-là, je l'avais. La scène où vous allez devoir vous confronter à une partie des gens de l'île, je l'avais, mais je ne savais pas si ce serait un tribunal ou pas, ou quoi que ce soit, ça dépendait de beaucoup de choses. La scène qui arrive là, je savais globalement que je voulais que ça arrive, mais c'était potentiellement à d'autres endroits, à d'autres tribus. Ça dépendait en fait des tribus que vous choisissiez. Et voilà, donc j'ai des trames globales comme ça, mais je ne sais pas le chemin qui va être pris.
Là, on voit qu'il y a vraiment des états d'esprit de MJ qui sont très différents, avec, je pense notamment à des gens comme François Néron, par exemple, absolument incapable de maîtriser... Alors, il maîtrise Trip to Sky en ce moment, donc c'est pas vrai, mais il avait une énorme difficulté à maîtriser Trip to Sky, parce que justement, il n'y avait pas assez d'éléments, c'était pas assez décrit. Tu vois, lui, il se sentait très bien dans le sens,
c'est
dans la Démécom.
S'il y a trop, c'est compliqué
Et toi, c'est l'inverse, ouais. C'est ça, c'est marrant, hein, comme quoi... Vraiment l'accessibilité, ce qu'on considère comme des choses faciles, en fait, ça peut être des choses radicalement différentes et opposées. Je trouve ça intéressant.
Et aussi parce qu'un de mes petits plaisirs, c'est je note plein de choses quand je masterise avec vous, et en fait, c'est d'entendre vos souhaits et d'adapter ensuite au fur et à mesure à vos souhaits.
Et ça, c'est vraiment ce que propose de faire Trip to Sky pour le MJ. Quoi.
Exactement. Et c'est pour
encore
ça que
faut-il que les joueurs et joueuses aient des souhaits.
Oui, alors
et qu'ils les expriment.
Ouais.
Parce qu'il y a plein de joueurs et joueuses qui
ont du mal à exprimer.
Ouais, parce qu'ils jouent dans un jeu tradi, t'exprimes pas trop quoi, ce que t'as envie de voir.
Il faut, juste en réaction. Fait, il faut aussi que les joueurs là soient dans cette approche-là.
Proactif.
Et et d'être, alors déjà de bien se connaître entre joueurs quand même, et de savoir avec qui on va jouer. Parce qu'avec des inconnus, tu vas pas forcément oser du coup dire ce que t'as envie et tout. Et il faut être proactif.
Le premier scénar est important, il faut le faire qu'avec le joueur en fait.
Ouais.
Parce que du coup, le joueur va pas avoir le choix. Tu vois, moi, je sais que pour toi, je t'ai beaucoup guidée sur le premier scénar.
Complètement.
Je t'ai fait plein de propositions à chaque fois pour voir le genre de truc que t'acceptais. Et je pense qu'à la fin du premier scénar, j'ai un peu vu en fait quel type d'histoire t'avais envie de faire. Et quel type de perso tu voulais. Ensuite, on a pas mal papoté au Chiquito du mercredi matin. Car figurez-vous qu'à Saint-Malo, il y a très peu de bars qui sont ouverts à partir de 8h le mercredi matin. Et on finit dans un rad pourri qui s'appelle le Chiquito. Parce qu'on dépose les enfants.
Géraldine au Chiquito à 9h le matin.
Non, à 8h.
Sinon, à 9h, il y aurait des possibilités autres que le Chiquito. Mais au moment où on doit se quitter, les trucs cool, ils ouvrent. Alors on finit au Chiquito.
Et d'ailleurs, toi, tu vas ouvrir ton truc cool sur le sillon au brise-lames. Donc voilà.
Exactement, plus tard.
Et donc, du coup, on se retrouve dans ce petit rad
Non, c'est mignon. Voilà.
C'est mignon. Ils sont gentils. Mignon, c'est mignon. Et puis, on n'a jamais les mêmes prix pour ce qu'on prend. C'est très drôle. Faut qu'on commence.
On n'a jamais les mêmes odeurs non plus, d'ailleurs.
On débriefe le Chiquito finalement ce soir. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast.
C'est important.
C'est nous aujourd'hui. On playtest le Chiquito.
Alors, il n'y allait pas avant. Ça, bah, bref. Et donc, on a pas mal débriefé en fait, toutes les deux là pour voir en fait ce qu'elle avait aimé.
C'est quelque chose qui n'a pas été dit dans la base, mais je trouve que tu l'éclaires particulièrement bien, Flavie. C'est ce côté de le fait de faire un scénar solo avec sa joueuse ou son joueur permet de l'obliger à être proactif pour son premier scénar et donc à se mettre ensuite en dans la table des joueurs avec cette position de proactivité.
Là, c'était important. C'était important.
Alors c'était une question que je voulais te poser parce que toi qui es joueuse de jeux de société dans laquelle les moves sont quand même très déterminés, tu vois, t'as ce côté où tu peux faire ça, tu vois, à ton tour, tu peux faire ça. Le fait de te retrouver plongé, mais même, tu vois, quand on avait playtesté ensemble Secret of Eon, c'est un jeu qui reste très proche du jeu de société. Tu vas retourner tes cartes, tu fais des actions, enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, le fait de te retrouver tout de suite comme ça, confronté à cette liberté-là, nickel.
Bah, c'est rigolo.
Ah non, ça a été hyper important, je pense. Enfin, je me serais pas vue arriver sur la table et me dire, allez, tu viens sur la table, tu vas les retrouver sans avoir avant eu un moment juste avec Flavie pour justement pouvoir discuter avec elle et puis appréhender cette façon de faire que j'ai pas du tout l'habitude, je suis pas forcément à l'aise. Et voilà. Et puis c'est le fait qu'on soit avec, que ce soit avec vous aussi. Ça change. Non, mais c'est vrai.
Ah ben non, mais de toute façon.
Il y a eu une heure et demie d'adaptation. Les premiers moves qu'elle a fait, en fait, elle m'a dit, je sais pas, guide-moi.
Non, mais c'est ça. J'étais. En fait, à chaque fois que je faisais quelque chose, je peux faire ça, je peux dire ça, je peux.
Oui.
Oui. C'est oui.
Oui. Vas-y. Et puis elle me dit, mais du coup, en fait, j'ai le droit de faire ce que je veux. Oui. Et à partir de là, c'était environ à une heure de jeu. À partir de là, j'ai plus eu à guider.
Non, mais c'est. Alors, clairement, Géraldine, ça m'étonne pas du tout. C'est-à-dire que Géraldine manque pas du tout d'imagination, pas du tout de. T'as pas ce côté timide de j'ose pas prendre la parole. Mais par contre, c'est. Il faut qu'elle soit autorisée au sens de. Il faut qu'elle se dise là, je joue vraiment au jeu. Tu vois, il y a un côté. Elle veut suivre les règles, en fait, Géraldine. Elle veut pas tricher quelque part. C'est une très bonne joueuse de ce point de vue-là. Et donc, dans un jeu dans lequel, justement, il y a un peu. Tu vois, dans les descriptions qu'on va faire des décors et tout ça, comment on va amener, il y a un peu une espèce de triche autorisée, c'est-à-dire qu'on peut amener des éléments du décor alors que c'est le MJ qui est censé avoir, dans les jeux de rôle traditionnels du moins, le dernier mot sur tous ces éléments ou même l'autorité stricte sur ces éléments. Là, on va pouvoir amener comme ça des éléments pour...
En gros, tant que je trouve ça cool... C'est ok.
Ouais, c'est ça.
Si à un moment, ça.
Cohérent,
ça va. Si à un moment, c'est pas cohérent du tout, je dirais, ah, là, quand même, c'est pas ça. Cohérent, là, je reprends la main. Ouais. Mais en gros, tant que c'est cohérent, allez-y, hein, pleine balle.
Et là, du coup, toi, ce qui a posé problème au début, c'est de savoir, mais en fait, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est.
Oui, c'est ça.
Et là, tu commences déjà à mieux à t'y retrouver.
Oui. Et puis, j'ai écouté avant des podcasts qui étaient faits sur Trip to Sky, pour connaître un peu l'univers et tout, parce que j'avais pas lu les livres, j'ai pas, voilà. Donc, comme j'avais pas cette connaissance-là, je me suis dit, oh là là, je vais arriver dans un monde, je connais
T'inquiète,
rien.
T'inquiète, parce que là, ils connaissent pas le monde non plus.
Ouais, bah, c'est justement le principe, hein, c'est que comme ça, on nous...
Mais
on
vous avez des rêves, quoi, que j'avais pas forcément, et c'est vrai que ça m'a aidé quand même d'écouter tout ça.
Ouais, intéressant. Et donc, du coup, une fois que tu sais ce qui est permis, ce qui est autorisé et tout ça, pouf, go, quoi.
C'est
là,
c'est cool.
Et à la fin du scénar, du coup.
Juste un dernier élément, je voulais rajouter que, parce que tu as glissé rapidement tout à l'heure, Géraldine, un truc très important, c'est que tu as dit, et ce qui est bien aussi, c'est que je suis avec vous. Et c'est vrai que c'est un jeu dans lequel, ça on en a beaucoup parlé avec Antoine Morgan tout à l'heure sur la confiance dans les autres et en soi quand on joue à Trip to Sky, c'est d'être entouré de gens en qui on a confiance pour pouvoir justement se lâcher et tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que le conseil de jouer uniquement avec ses amis est dans ce sens, mais il n'est pas dans Trip to Sky, alors que peut-être il aurait eu aussi sa place, je pense, dans...
Non, parce que Trip to Sky, j'ai joué aussi avec des gens que je connaissais beaucoup moins, et ça s'est très bien passé aussi.
Je pense qu'une première partie de Trip to Sky, c'est plus facile quand tu joues avec des gens avec qui, quand même, que tu connais un petit peu et tout. Parce
mais
que
je pense que là, c'est OMJ de gérer, en fait, la difficulté. Parce qu'en fait, la difficulté de Trip to Sky, elle se trouve pas dans le jet de dés, elle se trouve pas dans tout ça, elle se trouve dans les dilemmes que tu vas proposer. Et en fait, je trouve que dans les premières parties de Trip to Sky, ce qui est important, en fait, c'est de poser des dilemmes plus archétypaux auquel on va être plus habitué, auquel ça va être plus facile de répondre. Il faut qu'il soit un peu tiré d'une sorte de socle commun culturel, tu vois.
Les KPDP.
Des trucs comme ça sur lesquels tu as des refs, et au fur et à mesure de décaler tranquillement le canon esthétique. Et en fait, c'est ce que je fais avec vous depuis le début. C'est-à-dire que vous avez démarré Tritouskaï avec des canons esthétiques que vous connaissiez bien. J'ai commencé à le décaler avec le fait qu'on jouait plutôt avec dans un esprit un peu plus viking, mais plus ça va, plus je vais décaler en fait.
Donc pour toi, la difficulté est thématique en fait. Enfin, ouais. C'est une difficulté.
C'est une difficulté de dilemme moraux.
Pour moi, la difficulté de Tritouskaï, c'est vraiment de qu'est-ce que je vais dire en prenant le dé. C'est vraiment la difficulté. Et surtout parfois, tu sais, par exemple, il te reste plus que le D4, tu sais que ça correspond à ta pensée.
Ouais, mais du coup, si t'as déjà des refs sur ce que certains personnages pourraient faire.
C'est plus facile d'imaginer quelque chose.
Dans certaines situations, c'est plus facile d'imaginer des choses.
Ok.
Et le but, en fait, c'est de décaler ensuite pour vous proposer au fur et à mesure des trucs dans lesquels vous allez avoir de moins en moins de refs, en fait. Et ça va être vous qui allez créer les refs.
D'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, ce que tu veux dire, c'est que quand on a un canon esthétique qui est très clair, très défini, on sait comment prendre les dés parce qu'on raconte des choses caricaturales qu'on a vues dans des films de ce type-là.
Pour démarrer, c'est très bien, en fait, Tritouskaï. Mmh. C'est pour ça qu'au début, moi, j'ai le scénar de Géraldine, le premier scénar, il casse pas trois pattes à un canard. Hein, mais pareil pour vous. Hein, mais en fait, on a...
Tritouskaï, c'est très bien si t'es pas perclus de mauvaises...
Habitudes au jeu de rôle classique,
ouais.
T'as envie de dire.
Pour des gens vraiment qui commencent le jeu de rôle, je trouve que c'est très bien.
Ouais.
C'est libérateur.
Ouais, carrément.
Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent.
Mais la plus grosse difficulté, je trouve, dans Tritouskaï, c'est pas tant de poser les dés, c'est de trouver le texte en dessous les dés.
Oui, c'est ça.
Parce que des fois, il suffit de changer un mot et ça aiguille vers autre chose. On l'a vécu, je crois, au dernier scénar. Où il y avait un truc d'écrit, je sais plus ce que c'était, mais.
Oh là là, c'était.
Bref.
Déjà. Bref, je sais plus.
Il suffisait de changer le mot.
Le mot et ça ne s'arrimait plus. Ouais,
ouais.
Mais
on pouvait changer les issues.
Mais même le concept même des destinées des épées, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tous les mots sont polysémiques. Celui qui, par sa trahison, guidera la porte de la libération.
C'est pas déjà,
en fait, tu peux l'imaginer.
Oui, moi, je suis la clé d'une porte.
Tu fais n'importe quoi. Celle qui ouvrira la porte, celle qui ouvrira la porte, mais à son corps défendant, je ne sais plus.
Oui, voilà, un truc comme ça. Mais tu vois,
toi, c'est celui qui détruira les castes.
Finalement, c'est très poétique. Au sens de, tu vas faire donner aux mots du français, des sens qu'ils ne pourraient pas avoir dans un autre contexte, en fait. Et en cela, le jeu de rôle, certains jeux de rôle, je pense aussi à Prosopopée de Frédéric Saint-Aize, à Sens Néant, Tritouskaï, tous ces jeux un peu oniriques, il y en a plein d'autres que j'oublie bien sûr, mais qui donnent en fait cette occasion de pouvoir utiliser les mots autrement, en fait, pour pouvoir...
C'est pour ça que je trouve qu'il y a une... Il y a une prise en main, en fait, du joueur, du jeu. Et quand je dis joueur, j'entends aussi la personne qui masterise. Hein, parce que pour moi, dans ce jeu, la personne qui masterise, c'est un joueur. Parce que moi, je dois aussi apprendre comment jouer avec cette polysémie sur les dés, tout ça. Il y a vraiment une prise en main du système qui fait que moi, en tant que MJ, au début, je propose des scénars vraiment plus ou moins archétypaux, puis au fur et à mesure, on va tous se donner des libertés, en fait.
Et bien doser la difficulté, c'est difficile, hein, ça.
Ah ouais, ouais,
je trouve,
très difficile.
En tant que meneur de Tritouskaï,
savoir
c'est
combien
dur.
De déposer.
Ouais, c'est souvent a posteriori, tu fais mince, tu aurais dû faire plus dur, moins dur.
Moins dur, ouais. Ah, oh, c'était trop facile, je m'attendais pas à ce que ce soit si facile.
T'as une idée de la scène, mais en fait, c'est dur de vraiment l'exprimer avec le bon nombre de dés, les bons problèmes et tout.
Très, très dur.
En fait, moi, j'estime que les moments où tu poses un dé, c'est plus pour dire ça, c'est un moment où j'estime que je suis pas d'accord, ça peut pas se passer facilement. Mais en fait, des fois, il y a des trucs, je m'étais dit, ça va être chaud, et en fait, vous réussissez facilement. Et des fois, je vous ai posé des trucs vraiment hardcore, mais en fait, plus c'est hardcore, plus j'estime que là, je vous dis, là, franchement, je suis pas d'accord. Là, c'est pas logique, vous allez vous en prendre plein la gueule.
Et tu vois, c'est marrant parce que en tant que MJ de Tritouskaï, moi, je te vois tâtonner sur les dés, et moi, j'ai beaucoup d'expérience. Franchement, je sais exactement quand un combat est difficile, quand. Là, ça y est, moi, je commence à être un peu rodé par rapport
à ça. En même temps, c'est toi le créateur.
Voilà, c'est ça. J'en ai fait énormément.
Ce serait un peu gênant si c'était pas le cas.
Comment tu te la pètes et du coup... Je vais appeler le créateur quand tu te la racontes.
Et du coup, quand je vois Flavie poser les dés, parfois, je me dis, c'est trop, c'est passé. Et c'est vrai que ça me sort parfois de l'immersion. Je me dis, non, ça le fait pas, Fly. Je vois ce que tu veux faire, mais. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui me sort à titre personnel. parallèle, tu vois, mais en dehors de l'univers. Mais c'est pour ça que c'est très dur. Je suis d'accord avec Antoine, c'est très très dur. Et évidemment, voilà, c'est à mon avis, pour le MJ, la plus grosse difficulté,
oui,
et l'apprentissage le plus complexe. Et donc à la fin du scénario, parce que tu veux en
arriver
là.
Alors je vous lance la musique de fin, vous commencez à papoter, je vous laisse finir, et puis au moins je fais « Ah, taisez-vous tous, il se passe quelque chose ». Et j'éteins la musique.
Attends. Tu vas raconter la scène ou pas?
Ouais.
Parce que ça spoil de... Alors, ceux qui écoutent, si vous avez
pas alors, en fait... ça va rien spoiler du tout, puisque je vais le décrire...
Ok, vas-y.
Je vais le décrire peinard. Comme je vous l'ai décrit. Comme du coup, Géraldine, ça lui a rien spoilé du tout. Hein. Mm. Bjorn, en fait, est sous... vous le voyez rentrer dans une pièce, mais c'est une porte en métal. Et il y a un être bleu qui se matérialise devant lui. Qui se matérialise devant lui avec des éclairs bleus, bleus sur lui. Avez-vous fait ce que je vous ai demandé? Et Bjorn s'agenouille et il dit oui, Echo, mais c'est dur.
Alors ça c'est intéressant, c'est l'introduction. Pour la première fois, on a une cinématique.
Ouais.
C'est la première fois dans le jeu que... Et d'ailleurs, je me souviens qu'Antoine, à ce moment-là, tu demandes à Flavie, tu dis « Mais attends, on est là, on n'est pas là, je le vois à travers mon corbeau,
c'est un rêve. » C'est une cinématique Star Wars, quoi.
Exactement.
Bah, c'est une cinématique de jeu vidéo. En fait, il faut voir que... Parce que souvent...
C'est une cinématique post-générique de Marvel.
Exactement.
C'est ça, en fait.
Exactement. Mais ça, c'est des trucs que je faisais dans Sens, en fait, quand on a commencé à jouer à Sens avec Flavie, Céd et Tom. On était vraiment, il y avait toujours une petite cinématique, un petit cliffhanger de fin comme
on
ça.
On était mindfuckés
par le jeu vidéo.
Par le jeu vidéo.
Évidemment. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que tu avais fait le podcast sur le jeu de rôle et le cinéma et tout ça. Et qu'on s'était fait la réflexion après l'enregistrement de ce podcast. C'était très intéressant où Flavie explique au cours de l'émission que justement, quand on est MJ, on a en tête un film en fait quand on écrit son scénario et que c'est une erreur en fait. Une partie de jeu de rôle, ça se passe pas comme se déroule un film. Et on s'était fait la réflexion que nous, notre truc, c'était le jeu vidéo. Mais le jeu vidéo, ça colle un petit peu plus parce qu'il y a quand même de l'interaction avec l'univers. Mais bon.
Alors, pourquoi avoir mis une cinématique? Parce
oui,
que mon but, un de mes buts, là, c'est de faire se rencontrer les Romaric and Standing Universe.
Ouais.
Sans que pour autant ce soit embêtant pour ceux qui n'aient pas fait le... Si les autres, s'il y a des joueurs qui n'ont pas fait comme Géraldine, les autres jeux, c'est pas grave. Mmh. Et que les autres ils fassent ah, mais lui c'est un ah, ça vient de, mais en fait ce sera jamais très clair.
Ça fait longtemps qu'on a déjà quelques épiphanies comme ça, oui. avec Antoine.
Ouais, j'en ai fait popper pas mal. Mmh. Mais du coup,
après il y a des gens à qui ça plaira pas. Alex, on pense très fort à toi. C'est vraiment pas ça.
Encore du sens. Mais on a ras le bol de ton sens de con là.
Alex,
mais attention, c'est pas forcément parce que moi j'aime bien jouer avec ça aussi, c'est-à-dire que ce que je vous ai décrit, ça peut venir d'un autre truc.
Oui, non, puis même peu importe, tu vois, j'ai envie de dire
genre quoi, Watchmen.
Ah ouais, grave. Mais à partir de Secret of Eon, c'est possible.
Non mais en plus il peut...
Ah oui.
Oui, ah ouais, c'est vrai.
Avec
c'est
la porte vrai. Des secrets, tout est faisable. Hein.
Mais putain, mais tu vas tout spoiler. Mais c'est fini, oui. Putain,
dis pas tout.
Dis pas tout non plus.
Il faut pas dire non plus que le méfant fait.
Ah mais laisse un petit peu pour les autres. Donc voilà, Flavie Tripp dans le brillant Holistic Universe, qui d'ailleurs est notre Discord maintenant. Hein, vous savez, si vous voulez discuter des univers que je crée, tout ce Trip to Sky Sense, Cetra et tout le bazar, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de Brillant Holistic Universe, et du coup maintenant quand vous allez sur le forum vous avez cet onglet qui s'affiche, n'hésitez pas à vous y rendre, il y a de plus en plus de monde, c'est très dynamique, très actif, il y a plein de salons pour discuter de tous les univers que vous voulez, donc c'est super. Et ben
j'ai un truc à dire, mais je sais pas si ça a été dit dans le dernier podcast, donc si ça a été dit tu couperas, c'est pas grave. Après le podcast j'ai reçu plein de messages qui me demandaient envoie-moi tes scénars, je vais faire des playtests externes.
Ah, ça a été
on
diffusé,
se calme.
Ils sont diffusés déjà les épisodes là.
Il y a un
podcasts.
Épisode de diffusé et il y a deux épisodes de diffusé, pas au moment où on enregistre, mais après, juste après, demain, c'est jeudi. Et demain, le podcast qui sort, c'est Trip to Sky.
Alors,
2.
Déjà, dans un premier temps, moi, je suis en train de créer ça pour mes potes. Donc, je n'ai pas du tout eu dans l'idée qu'un jour, je pourrais J'ai même pas projeté le fait de le diffuser ou de quoi que ce soit. Si à un moment ça doit être écrit, je l'écrirai. Mais là, je suis pas rendue dans le moment où j'ai envie de partager mes notes et que ce soit playtesté en externe.
C'est un playtest. Hein.
C'est un playtest.
Et surtout si vous avez envie de jouer dans un délire viking nordique, faites-le.
Bah ouais.
Enfin, je veux dire, ouais, c'est le concept de Trip to Sky, hein, c'est qu'il faut que ça soit le MJ qui...
Mais je vous remercie beaucoup des attentions et tout, c'était cool, mais du coup j'étais là, mon dieu, je me sens stress, et donc je préfère le dire, je ne vais pas partager, j'entends, mais pour l'instant je ne suis pas rendue du tout à un moment où je partage, je suis rendue à un moment où je joue avec mes joueurs, j'ai une trame de base, si vous écoutez bien en plus vous voyez que la trame elle est mouvante, hein, en fonction de ce qu'ils choisissent.
Elle glisse.
Elle est mouvante. Alors, évidemment, il y a vraiment... C'est un énorme bac à sable, donc le bac à sable existe, mais pour l'instant, il n'est pas partageable du tout.
Voilà.
Donc,
encore une fois, je te l'ai dit, pour moi, ça ne me paraît pas le bout du monde de le faire, même en une dizaine de pages, tu vois, juste présenter le background.
Pour l'instant, c'est trop tôt.
C'est trop tôt, là, c'est trop tôt. Non, mais je suis d'accord, mais voilà, c'est pour dire que...
Et en plus, il y a un bac à sable de l'île d'Yggdrasil et il y a un bac à sable pour l'univers autour.
Mais là où je suis d'accord avec Antoine, c'est qu'en fait, quand on lit le background de Trip to Sky, Trip to Fly, en fait, on peut le faire. Enfin, tu vois,
c'est l'histoire.
C'est l'histoire des 9 tribus. Ouais. Voilà, tu te dis, bon, bah après, toi, tu l'as imaginé façon nordique et tout ça, machin. Mais en vrai, voilà, c'est... Toi, Antoine, quand t'as maîtrisé Trip to Sky la première fois, t'as carrément imaginé des...
Ouais, moi, j'ai jeté à la poubelle ton univers.
T'as jeté quasiment à la poubelle l'univers, exactement, et t'as imaginé des portails qui permettaient de voyager dans d'autres mondes volants.
Bah, à la mer, c'est quoi
La mer tempête, ouais. Au-delà,
non, mais...
Oui, les confins.
La frontière, là, qu'on peut pas...
Ouais, voilà,
là où sont les dragons.
Voilà, là où sont les dragons, exactement. Mais tu vois, dans l'espace et tout ça, machin, moi, je me souviens qu'on avait fait un scénar où c'était ambiance navire un peu... je sais pas comment dire, un peu plus...
Albator.
Les jonques asiatiques et compagnie, tu vois, un peu plus navire de Chine, j'ai envie de dire. Et c'était
très cool.
En tout
cas, sachez que ça m'a beaucoup touché de recevoir pas mal de messages, mais aussi beaucoup stressé. Je me suis dit, j'ai oublié de préciser... Que pour l'instant, il n'y avait pas de playtest d'externe de prévu et que pour l'instant, je vais être honnête avec vous, j'y avais même pas pensé en fait.
C'est vrai que pour nous, faire une campagne et débriefer une campagne de Trip to Fly, c'est aussi l'occasion de parler de Trip to Sky, de reparler du système, de vous donner aussi envie d'y jouer, parce que Trip to Sky n'a pas bénéficié par rapport à mes autres jeux d'autant d'expositions. Tu vois, il y a eu quand même peut-être une dizaine de podcasts dessus. Sens, j'en parle même pas, on est plus de 60 podcasts.
Trip to Sky, c'est mon préféré, mais c'est cool qu'on fasse des trucs, mais pour l'instant, je suis pas prête, les gens. Voilà.
Mais merci beaucoup en tout cas, Flavie, de faire vivre le jeu comme tu le fais. C'est très très cool.
Écoute, avec plaisir. Et puis là, on va continuer parce qu'il est temps d'aller chez les dragons.
Ouais, il est temps d'y aller. Allez. Bon, merci beaucoup. À très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.